Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'émissions La Bonne Nouvelle aux Musulmans. Bonne Nouvelle aux Musulmans. Et nous allons regarder de près le sacrement de mariage. Je vous souhaite une bonne écoute. Une bonne écoute. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à Radio Thiers. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. Je vous souhaite une bonne écoute. Le sacrement de mariage. Quand une mère ou un père regardent leur bébé avec amour et tendresse, ce petit enfant fait l'expérience d'être aimé. Le sourire de ses parents le rassure et lui permet de s'épanouir. Il fait confiance à ses parents et ainsi il apprend que l'amour est fiable. Si par contre un petit bébé est privé de cette chaleureuse expérience au début de sa vie, il aura plus tard souvent du mal à avoir confiance aux autres, à se croire aimé, à s'engager. Il présentera même des tendances d'autopunition. Car l'amour est tellement vital pour notre bien-être que nous en avons besoin pour nous épanouir, comme une plante a besoin du soleil. Pourquoi ? Parce que Dieu, qui est l'amour absolu, a créé l'homme à son image, en tant qu'homme et femme. Rappelons que tous les deux sont donc égaux en dignité, mais ils ont des devoirs différents qui se complètent. Quand un homme et une femme ou une jeune fille se rencontrent, ils font parfois l'expérience d'être aimés de l'autre. Ils éprouvent eux-mêmes de l'amour pour l'autre au point qu'ils ne veulent plus vivre l'un sans l'autre. Vous avez sûrement fait l'expérience que vous voudriez garder l'être aimé pour toute l'éternité, car l'amour, puisqu'il vient de Dieu, tend vers l'éternité. L'amour sincère ne veut pas être limité pour un certain temps. Si, après une réflexion mûre et posée, les jeunes gens constatent qu'ils souhaiteraient vivre ensemble pour l'éternité, s'ils acceptent de vieillir avec l'autre, avec tous les inconvénients, maladies et difficultés que cela comporte, ils souhaitent sceller durablement leur engagement par la célébration du sacrement de mariage. Regardons de près ce que dit la Bible du mariage. Au premier chapitre de la Genèse, nous lisons ceci. « Soyez féconds et multipliez-vous. » L'union matrimoniale de l'homme et de la femme est ordonnée par nature à la communion et au bien des conjoints et à la génération et à l'éducation des enfants. Selon le plan originel de Dieu, l'union matrimoniale est indissoluble, comme dit Jésus. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mais à cause du premier péché, qui a aussi entraîné la rupture de la communion entre l'homme et la femme, l'union matrimoniale est très souvent menacée par la discorde et l'infidélité. Cependant, dans son infinie miséricorde, Dieu donne à l'homme et à la femme la grâce de réaliser leur union de vie selon son dessein divin originaire. Si les conjoints, unis par le mariage sacramentel, ont toujours recours au sacrement de réconciliation et à la Sainte Eucharistie. Pourquoi le mariage ne peut-il seulement être contracté entre un homme et une femme et pourquoi est-il indissoluble? Le mariage chrétien est déjà préfiguré dans l'Ancien Testament par l'alliance nuptiale de Dieu avec Israël. Cette alliance de Dieu avec son peuple prépare et préfigure l'alliance nouvelle et éternelle accompli par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avec l'Église, son épouse. Par le Christ, Le mariage a trouvé sa dignité nouvelle de sacrement. Ce n'est plus une union charnelle dictée par la concupiscence, le plaisir éphémère ou par un contrat forcé. Mais le mariage chrétien reflète l'amour sponsal du Christ pour l'Église. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Par le Christ, l'union charnelle entre un homme et une femme, qui très souvent tendait à rendre la femme esclave des pulsions de l'homme et qui, de plus, était fragilisée par la concupiscence incontrôlée du conjoint, cette union entre homme et femme a été élevée au rang d'un sacrement, c'est-à-dire une institution où Dieu même est à l'œuvre. Est-ce que tout le monde est obligé de se marier? Mais bien sûr que non. Le mariage n'est pas une obligation pour tous. Le mariage est une vocation, tout comme le sacerdoce ou la vie consacrée. Rappelons-nous, c'est-à-dire Dieu appelle certains hommes et certaines femmes à suivre le Seigneur Jésus dans la voie de la virginité ou du célibat. Nous avons déjà parlé dans les leçons précédentes. Pour être complètement libre et disponible au service du Seigneur, ces personnes renoncent au grand bien du mariage pour se soucier des choses du Seigneur. Ainsi, ils deviennent le signe de la primauté absolue de l'amour du Christ, de l'attente de sa venue glorieuse et de la vie éternelle future, car au ciel on ne se marie plus, comme Jésus a dit à ses apôtres. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Toute question de savoir si l'on enfantera encore au ciel est ainsi close par la réponse du Seigneur Jésus. Comment se célèbre le sacrement de mariage? Puisque le mariage établit le conjoint dans un état public de vie dans l'Église, l'Église prescrit une célébration liturgique publique en présence d'un prêtre ou d'autres témoins. Qu'est-ce que c'est que le consentement matrimonial? C'est la volonté expresse d'un homme et d'une femme libres, et non de deux parents qui veulent marier leurs enfants, de se donner mutuellement et définitivement l'un à l'autre, dans le but de vivre une alliance d'amour fidèle et fécond. Il n'y a pas de mariage chrétien possible sans consentement. Il est indispensable et irremplaçable. Il est donc impensable du point de vue chrétien qu'un père marie sa fille à un homme qu'elle ne connaît pas ou avec lequel elle ne veut pas vivre. Et cela vaut aussi pour un garçon. Cela serait une grave atteinte à la liberté personnelle. Et d'ailleurs, le mariage ne serait pas valide. Le consentement doit être un acte humain, conscient et libre, hors de toute violence et de toute contrainte. Évidemment, les parents peuvent et ont le droit de guider leurs enfants, de les conseiller, mais jamais ils n'auraient le droit de les marier de force. Quels sont les effets du sacrement de mariage? Le sacrement de mariage crée entre les époux un lien perpétuel et exclusif. Dieu lui-même ratifie le consentement des époux. Ainsi, le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. Comme nous venons de dire plus haut, Dieu donne aux époux la grâce nécessaire pour parvenir à la sainteté dans la vie conjugale et dans l'accueil responsable et l'éducation des enfants. Quels sont les péchés qui sont gravement contre le sacrement de mariage? Ce sont le mariage forcé, qui nie le libre consentement des époux. L'adultère, n'importe si c'est l'homme ou la femme qui le commettent, l'union libre et les rapports conjugaux avant le mariage, très répandus de nos jours, il constitue le péché de fornication qui avilie le corps du baptisé, qui est un temple du Saint-Esprit. La polygamie, parce qu'elle s'oppose à l'égale dignité de l'homme et de la femme, à l'unité et à l'exclusivité de l'amour conjugal. Si l'on aime vraiment quelqu'un, on ne veut pas le partager avec d'autres. Ici aussi s'applique la parole du Seigneur : nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Le refus de la fécondité qui prive la vie conjugale du don des enfants. Paul VI, dans son encyclique Humanum Vitae, a trouvé des paroles prophétiques pour fustiger l'avortement et les contraceptifs qui constituent de graves crimes empêchant l'accueil des enfants et qui ne font qu'augmenter la volupté et la libération sexuelle qui déferlent sur le monde entier. Mais est-ce qu'on est obligé de donner naissance chaque année à un enfant ? Cela ne dépasserait-il pas les facultés personnelles ? Pour répondre à ces problèmes, l'Église renvoie les époux chrétiens aux méthodes naturelles de conception qui ont été instaurées par Dieu même. Ainsi, il est possible de vivre une parenté responsable sans contraceptif qui est basée sur le respect mutuel et conjoint. Ainsi, la femme n'est plus une chose pour l'homme dont il peut disposer à son gré, mais une partenaire à valeur égale qu'il s'agit de respecter et de choyer. Adressez-vous pour en savoir davantage à des médecins chrétiens ou à des centres catholiques de régulation de naissance. Est-ce qu'on a le droit de quitter son époux ou son épouse si la cohabitation est devenue, pour des motifs graves, impossible? L'Église admet la séparation physique des époux en cas de motifs graves, tels que la brutalité d'un mari, par exemple, ou des écarts de conduite ou l'ivresse continuelle d'un conjoint. Mais aussi longtemps que vit le conjoint, aucun des époux n'est libre de contracter une nouvelle union, à moins que leur union ait été annulée par l'autorité ecclésiastique. L'indissolubilité du mariage vaut aussi pour le cas où un conjoint aurait quitté son partenaire pour se refaire une vie avec un autre. L'Église est très stricte et formelle là-dessus. Le péché de divorce, très répandu de nos jours, et même exalté par les médias et les différents courants politiques comme progrès dans les relations humaines, est une grave enfreinte à la loi de Dieu, car le divorce s'érige contre l'indissolubilité du mariage. Est-ce que l'Église punit sévèrement les péchés contre le mariage? Il est clair que l'Église ne prononce pas de sentence de mort, même si le péché est mortel. Cela veut dire qu'il tue la vie de la grâce dans l'âme de la personne en question. Et encore, il faut bien distinguer entre péché objectif et péché subjectif, c'est-à-dire si le sujet est conscient et responsable de ce qu'il fait. Or, l'Église, comme une bonne mère, fait preuve d'une sollicitude attentive vis-à-vis des pécheurs. Elle les invite à une vie de foi, à la prière, aux œuvres de charité et à l'éducation chrétienne de leurs enfants. Mais aussi longtemps que dure leur situation irrégulière, ils ne peuvent recevoir l'absolution sacramentelle, ni accéder à la communion eucharistique, ni exercer certaines responsabilités dans l'Église. Pourquoi les couples divorcés et remariés civilement ne peuvent-ils pas recevoir la Sainte Communion? Tout simplement parce qu'ils s'excluent eux-mêmes de l'union avec le Christ. Si l'on ne respecte pas la loi du Seigneur, on ne peut pas aspirer à une union totale avec lui qu'est la Sainte Communion, ce serait une grave offense du Seigneur, un sacrilège. Malheureusement, de nos jours, la Sainte Communion est de plus en plus perçue comme un signe de la communauté et non comme une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de divorcés réclament le droit d'aller à la Sainte Communion. Mais comme nous l'avons vu, leur attitude erronée est due à une méprise totale du sacrement de l'Eucharistie. Il y a d'ailleurs un lien étroit entre le mystère du sacrement de mariage et le mystère de la Sainte Eucharistie, car la Sainte Eucharistie, c'est les noces de l'agneau, donc du Dieu trinitaire, avec l'être humain. Pourquoi la famille chrétienne est-elle aussi appelée église domestique? Parce que la famille manifeste et révèle la nature de l'Église comme famille de Dieu, qui est d'être communion et famille. Chacun de ses membres, selon son rôle propre, exerce le sacerdoce baptismal, contribuant à faire de la famille une communauté de grâce et de prière, une école de vertus humaines et chrétiennes, le lieu de la première annonce de la foi aux enfants. De nos jours, la famille chrétienne est gravement menacée par une politique antichrétienne, telle que le mariage homosexuel ou les expériences bioéthiques antichrétiennes qui constituent une terrible révolte contre les lois divines, etc. Mais comme la Sainte Vierge nous l'a montré à Fatima, dans la dernière vision du 13 octobre 1917, la famille chrétienne bénéficie de la protection spéciale de la Sainte Famille elle-même. Confions donc toutes nos familles à la Sainte Famille et terminons par la prière suivante. Prière à la Sainte Famille. Ô Jésus très aimant, qui par vos ineffables vertus et exemples de vie domestique avez consacré la famille choisie pour vous sur la terre, jetez un regard de miséricorde sur notre famille qui, prosternée à vos pieds, vous supplie de lui être propice. Souvenez-vous que cette maison vous appartient comme s'étant vouée et consacrée à vous pour vous honorer d'un culte particulier. Protégez-la dans votre bonté, délivrez-la des périls, venez à son aide dans les nécessités, accordez-lui la force de persévérer, toujours dans l'imitation de votre sainte famille, afin que, fidèlement attachée à votre amour, tout le temps de sa vie mortelle, elle puisse enfin chanter vos éternelles louanges dans les cieux. Ô Marie, très douce Mère, nous implorons votre protection, bien persuadés que votre divin et unique Fils exaucera vos prières. Et vous aussi, très glorieux Patriarche Saint Joseph, accordez-nous l'appui de votre puissant patronage et remettez nos vœux entre les mains de Marie, afin qu'elle les présente à Jésus-Christ. Jésus, Marie, Joseph, éclairez-nous, secourez-nous, sauvez-nous. Amen. Voilà, avec cette prière, nous terminons cette leçon sur le sacrement de mariage. Et avec cette leçon, nous avons aussi terminé les cours sur les sacrements de l'Église. La prochaine fois, nous allons regarder de près la prière du Notre Père. Merci pour votre attention. Je vous dis au revoir, jusqu'à la prochaine fois. Votre Véronique.